Une douzaine d'universités partiellement ou complètement bloquées, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris-Tolbiac. Mobilisation contre la réforme des universités, la loi OR, orientation réussite des étudiants. Elle instaure une forme de sélection à l'entrée des universités. Bonjour Frédéric Dardel.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'université Paris-Descartes, favorable, vous l'êtes à cette réforme. Comment regardez-vous ce vent de contestation dans les facs en ce moment? Est-ce que vous prenez ça au sérieux?
C'est toujours sérieux quand les gens s'expriment parce qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose. La pluralité des points de vue, ça fait partie des choses qu'on voit tous les jours dans l'université. C'est normal, c'est la vie. Donc, en même temps, je comprends aussi le fait que lorsqu'on change des règles, les gens s'inquiètent, c'est normal.
Mais l'inquiétude des étudiants, ce n'est pas seulement la réforme des universités. Il y a aussi des jeunes qui ne veulent pas rester passifs devant leur avenir. C'est un peu l'esprit de 68. Est-ce que vous ressentez en ce moment comme un parfum de 68, puisque c'est d'actualité?
Alors je pense que c'est assez dépendant des établissements. Dans mon université, pour l'instant, c'est assez calme.
Oui.
Je
n'ai pas vu Paris Descartes.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans l'université qui se posent des questions. C'est pas ça que je dis, mais majoritairement, à Paris Descartes, la situation
est calme. Pour l'instant,
c'est calme.
Le point de cristallisation le plus important en ce moment pour les étudiants, c'est le Parcoursup qu'a lancé l'actuel gouvernement. Ça va se mettre en place à la rentrée prochaine. Ce ne seront plus les algorithmes, un algorithme centralisé qui choisira les admissions en université, mais chaque université qui fera sa propre sélection. Sur quels critères ?
Alors c'est très dépendant de deux choses. C'est dépendant d'une part des filières. Je pense que la façon dont on va regarder les dossiers va dépendre du parcours, de savoir s'ils veulent faire des études de médecine, de droit, de psychologie. Et ça va dépendre aussi du public, parce qu'aujourd'hui, les universités n'ont toujours pas encore, étant donné que les choix sont pas terminés, ça se termine ce soir, on n'a pas la vision de la population qui veut rentrer chez nous. Donc c'est difficile de répondre à cette question tant qu'on ne sait pas quel est le public qui veut venir dans l'université.
J'ai compris pour la difficulté. Sur les critères, vous dites qu'il y aura le parcours, il y aura les notes également. Il y aura quoi d'autre pour sélectionner les étudiants ?
On va regarder l'ensemble du dossier. Alors, je pense que les questions sont pas de même nature en fonction des filières. Certaines ont décidé d'appliquer des règles un peu nationales. C'est le cas, par exemple, de la filière des STAPS, donc les gens qui veulent préparer des études en sciences des activités physiques et sportives. Oui. Il y en a d'autres où c'est les établissements qui vont probablement définir des critères. Alors, ils ont déjà défini des critères, mais après, leur application va se faire avec des commissions d'examen des vœux.
Ça veut dire qu'il va y avoir dans chaque université des algorithmes locaux?
Alors, il va y avoir des gens, surtout, qui vont faire ça. Oui. Donc, dans chacune des... Moi, il y a 8 licences non sélectives dans mon université. C'est-à-dire non sélectives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères absolus, on ne met pas un seuil de notes. On définit un nombre de places et on remplit au fur et à mesure que les candidatures arrivent. Et donc, chaque licence va avoir un comité d'examen des candidatures qui va regarder les dossiers.
Avec des pondérations possibles, suivant les parcours?
Alors, avec un mode opératoire qui va être en deux temps, on va probablement utiliser les outils fournis par la plateforme Parcoursup pour faire des sélections de sous-ensembles de candidats qui répondent à des critères particuliers.
Mais non, pardon, parce que c'est le point de cristallisation. Cette sélection selon des critères particuliers que vous évoquez, c'est quoi par exemple ?
C'est par exemple de dire, on va regarder les candidats qui viennent de telle filière et qui ont eu au moins telle note dans telle discipline. Par exemple, je prends un exemple simple, on peut se dire que par exemple, pour faire une licence de mathématiques, on peut demander à regarder en priorité les dossiers qui ont eu au moins 8 de moyenne en mathématiques en terminale S. C'est un exemple.
Ça va remonter jusqu'en terminale, oui. Bah oui, forcément, pour l'accession à l'université. Avec le Parcoursup, la sélection à l'entrée des universités se fera donc par les notes. Une sélection à l'entrée d'université qui était jadis plus accueillante, vous qui êtes favorable à cette réforme, ça a quel avantage ?
On voyait, avant c'était un système où les étudiants étaient répartis par un modèle qui était largement indépendant de leur parcours antérieur au lycée. On avait dans certaines filières, notamment moi j'ai pas mal de licences scientifiques, des gens qui arrivaient dans des licences scientifiques sans avoir fait un bac scientifique. Ces étudiants-là ne réussissent pas. Ils arrivaient, ils étaient envoyés par le système APB, on les prenait dans nos cours et dans nos TD, et à la fin de l'année, ils étaient en échec. Donc ça veut dire qu'on avait un système qui fabriquait de l'échec par le fait qu'on envoyait dans les filières des gens qui n'avaient pas les armes pour y réussir.
L'ancien système APB avait certes montré quelques failles, surtout le tirage au sort parfois pour les postulants à l'université, mais enfin ça restait assez marginal. Est-ce que le remède proposé, tel que le voient les étudiants, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal au final ?
Moi, je ne suis pas persuadé de ça du tout. D'abord parce que le nombre de places à l'université n'a pas baissé. Donc aujourd'hui, on va avoir de la place pour accueillir des étudiants. Dans beaucoup de filières chez moi, il n'y aura pas de sélection in fine, puisque le nombre lorsque les systèmes de désistement vont se mettre en place, les gens vont avoir des places. Il ne faut pas non plus fantasmer sur le fait qu'on va faire un classement des candidats. Avant, c'était un classement qui était fait par un algorithme qui faisait un tirage au sort. Maintenant, on va faire un classement qui va être basé sur les parcours des étudiants avant.
Et c'est chaque université qui veillera à cette sélection. Alors d'accord pour la responsabilisation des universités, mais aurez-vous le temps matériel d'ici la rentrée prochaine d'éplucher tous les dossiers à Paris Descartes, monsieur le président d'université?
Alors ce sera du travail, hein, mais on part pas de rien. Je vous donne un exemple. Nous avons associé à Paris Descartes dans notre université l'IUT de Paris. L'IUT de Paris, qui a des filières sélectives, reçoit chaque année, depuis longtemps, environ 50 000 vœux pour environ 900 places dans 6 filières. Donc ils se sont organisés, on a discuté avec les collègues de l'IUT pour voir comment ils faisaient et on va s'en inspirer pour faire la même chose dans les autres filières. On n'est pas en train d'inventer quelque chose.
Oui, mais que ferez-vous, comme on l'a entendu, si certains UFR d'université ne veulent pas le mettre la main à la pâte pour éplucher les dossiers de candidature?
Dans mon université, c'est le cas d'une des UFR, l'UFR de sciences humaines et sociales. On va regarder avec eux comment on va faire. Il y en a certaines des licences où je vous ai dit ça risque de ne pas poser de problème, puisqu'il n'y a pas de saturation de la capacité d'accueil par les candidatures. Donc là, qu'on les classe de 1 à 300 dans un ordre ou dans un autre, ils viendront tous. Dans d'autres, c'est plus compliqué, donc il faudra que je discute avec les collègues pour voir comment on s'en sort.
Et vous pensez que dans toutes les universités, chacun sera capable d'aller éplucher tous les milliers de dossiers qui vont arriver entre maintenant et la rentrée?
Alors je ne dis pas que c'est facile, c'est la première année, donc on n'a pas d'expérience, donc on va effectivement essuyer les plâtres. C'est très vrai, et on a regardé un petit peu avant, c'est-à-dire que on a eu les données de l'année dernière dans APB, donc ce qui permet de voir ce que ça donne sur un échantillon réel de candidatures qui a voulu venir dans notre université l'an dernier, pour voir à peu près ce que ça représente, et on attend avec impatience d'avoir accès au dossier, puisque pour l'instant, on n'a toujours pas accès au dossier des candidats.
Et dans cette nouvelle loi sur l'orientation des élèves, le Sénat a supprimé le secret des délibérations avec d'éventuels comptes à rendre pour plus de transparence. Cette levée du secret, vous y êtes favorable ?
Je pense que c'est dans l'intérêt du système. Moi, je suis favorable au fait qu'on essaye d'offrir aux étudiants des parcours qui sont adaptés à leurs compétences et à leur histoire antérieure au lycée. Si on fait ça de façon opaque, c'est sûr qu'on va générer des fantasmes. Donc, on a intérêt à expliquer comment on fait pour que les gens se rendent compte qu'on ne fabrique pas des choses délirantes.
Dans cette crise, une douzaine de facs bloquées en ce moment en France. Tenez bon, a dit la ministre. Vous attendez quoi de Frédéric Vidal dans cette crise en cours dans les universités?
Alors moi j'attends en fait qu'on arrive à voir ce que ça donne, c'est-à-dire que là pour l'instant effectivement on est beaucoup dans de l'inquiétude qui est générée par le fait qu'on a un nouveau système dont on ne sait pas encore, ni du côté des étudiants, ni du côté des universitaires qui ont à gérer l'affaire, comment ça va déboucher. En même temps, moi je crois beaucoup au progrès que ça représente pour la qualité des formations et la qualité des candidats qui vont aller dans ces formations. Donc je vais effectivement essayer de faire marcher le système.
Et puis il y a aussi le cas de Montpellier, on parlera peut-être de violence dans la deuxième partie de cette interview. Frédéric Dardel, président de l'université Paris-Descartes. On va donc poursuivre cette interview après la revue de presse de Laura Lavenne. La réforme des universités, la contestation qui s'exprime dans une douzaine d'universités en ce moment. On aura un autre point de vue avec le prochain invité à 8h40, le vice-président de l'UNEF, Abdoulaye Diarra. Il y aura aussi les questions de Patricia Martin, les questions, vos questions, les auditeurs. C'est au 01 45 24 7000. À tout de suite. La réforme des universités contestée par une partie des étudiants, une douzaine d'universités bloquées en ce moment. On en parle ce matin jusqu'à 9h05 avec Frédéric Dardel, le président de l'université Paris-Descartes. Et on accueille Abdoulaye Diarra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de l'UNEF, syndicat d'étudiants classé à gauche. Cette réforme des universités prévue à la rentrée et son parcours sup, vous y êtes opposé. Pour quelle raison ?
Tout simplement parce qu'elle vient mettre en place de la sélection à l'entrée de l'université. Alors on a pu le voir l'année dernière avec un peu les ravages du tirage au sort. Bah, plutôt que de régler la situation et de donner les moyens aux établissements universitaires d'accueillir l'ensemble des étudiants dans de bonnes conditions, ce que nous propose le gouvernement finalement, c'est un peu ce qui était dit, c'est de dire que certains étudiants n'auraient pas la possibilité de réussir. Donc le plus simple, ce serait tout simplement leur empêcher de choisir la filière de leur choix, plutôt que de leur donner les moyens pour pouvoir réussir. Et à ça, nous on est fondamentalement proposer. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques semaines, effectivement, de plus en plus de jeunes qui se mobilisent, qui descendent dans la rue, des lycéens et des étudiants, tout simplement pour dire, collectivement, qu'eh bien, il existe d'autres solutions, qu'on n'a pas le choix simplement entre le tirage au sort ou de la sélection pure et dure, mais qu'effectivement, avec plus de moyens, bah, on pourrait faire autrement, on pourrait fonctionner autrement dans nos établissements.
Ça veut dire que ce n'est qu'un début, que le mouvement va s'amplifier. Vous pourriez même envisager une manifestation unitaire avec les cheminots le 3 avril ?
Oui, effectivement, nous, on pense que c'est que le début. On se donne rendez-vous le 3 avril pour pouvoir continuer à amplifier cette mobilité.
On continue le combat, c'est ça ?
On continue le combat, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que à chaque étape un peu de Parcoursup, on a de plus en plus d'étudiants, de jeunes qui descendent dans la rue parce qu'eh ben, ils se rendent compte que finalement, on avait un peu raison. On avait un gouvernement qui nous disait que c'était pas de la sélection. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'en doute. On se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus d'étudiants qui et de lycéens qui, confrontés à la mise en place de Parcoursup, ont dû voir le nombre de CV qu'ils devaient faire, les différentes galères de procédure. Ben donc aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, donc moi je doute pas une seule seconde que les jeunes vont continuer à descendre dans la rue.
Jusqu'à quelle ampleur vous souhaitez que la contagion prenne jusqu'où ?
Bah, nous, on ne se donne pas de limite. Nous, ce qu'on veut, tout simplement,
c'est une autre réponse. Alors, vous allez franchir les lignes rouges dont parlait votre ministre de l'Enseignement supérieur.
Bah, nous, ça fait un moment quand même qu'on lui répète. On a une réforme qu'il nous impose. C'est la communauté universitaire qui est clairement opposée à cette situation. Alors, si effectivement, on a quelques présidents d'université qui soutiennent cette réforme, on le voit, on a la communauté éducative. Ça fait un moment, par exemple, que les syndicats professionnels appellent également à se mobiliser. On le voit de plus en plus dans les lycées, on le voit de plus en plus dans les universités, où il y a des blocages, où il y a effectivement des rassemblements qui sont organisés. Donc moi, je ne doute pas un seul instant qu'effectivement, ce mouvement va prendre de l'ampleur. Et on est un peu désolé pour les lignes rouges de Madame la Ministre. Mais par contre, nous, on n'a aucune intention de s'arrêter, du moins tant que la situation ne sera pas arrangée pour les étudiants.
Jusqu'à un péril possible des partiels et autres examens ?
Bah, nous, on s'organise effectivement pour faire en sorte que les étudiants puissent quand même passer leur partiel ou du moins réussir à valider leur année. Mais là, la question, elle est quand même fondamentale. C'est l'avenir de toute une génération qui va jouer. C'est des milliers de bacheliers qui, à l'heure actuelle, vont être confrontés à une sélection sans avoir même d'informations sur quels sont les critères. Parce qu'effectivement, on a la lettre de motivation, on a plein d'éléments. Mais après, comment tout ça va être corrélé ? Et surtout, une vraie inquiétude, même pour les personnes qui sont aujourd'hui déjà étudiants, on a le ministère qui vient d'annoncer sa volonté d'ouvrir des concertations sur l'arrêté licence, sur la question de la compensation des matières ou encore les rattrapages. Donc globalement, encore une fois, dire que finalement, si les jeunes ne réussissent pas, c'est de leur faute.
Frédéric Dardel, président de l'Université Paris-Descartes, vous avez entendu les arguments de Abdoulaye Diarra, le vice-président du syndicat étudiant UNEF. Est-ce qu'il est convaincant pour vous faire changer d'avis? Je crois pas forcément, mais en tout cas, vous entendez ce qu'il dit?
On se parle, j'ai des représentants de l'UNEF dans mon université, c'est un sujet de discussion et on essaie de trouver sur un certain nombre de problèmes concrets des points de convergence. On n'est pas d'accord sur l'analyse de la situation. Moi, je trouve que la position française vis-à-vis de la sélection est quelque chose qui est extrêmement ambivalent. D'abord, c'est une singularité française. La plupart de nos voisins européens pratiquent la sélection à l'entrée de l'université, y compris des pays très progressistes, sans que ça déclenche la moindre réaction.
Bah, depuis 1986, ici, c'était fini. Hein,
oui, je sais.
Mais alors, ce qui est en cause, c'est que les facs étaient plus accueillantes avant. C'est ça qui est en cause aussi aujourd'hui.
Alors, il y a eu une augmentation très importante du nombre des bacheliers et donc du coup, effectivement, les universités sont en face à une situation de population, de densité de population qui est importante. Mais on peut pas résoudre le problème d'un coup de baguette magique en disant il faut augmenter les moyens des universités. Moi, j'ai besoin, je suis plein en termes de mètres carrés, en termes et je peux pas résoudre demain les capacités d'accueil dans les quatre filières en tension que j'ai chez moi.
On parlera tout à l'heure de la précarité des universités françaises dans un instant. On va aller faire un tour au standard avec une première question, celle d'Arnaud. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Ma question s'adressait principalement au directeur d'université, au président.
Président, s'il vous plaît, c'est pas directeur, c'est président.
Oui, président.
Président élu.
Et à savoir, qu'est-ce qu'il pensait des gens qui, suite à un bac technique ou professionnel, avaient pu, comme moi, accéder à l'université et faire des études longues jusqu'en thèse et donc utiliser l'ascenseur qu'on appelait social.
Voilà, l'université, voilà. Lorsqu'elle est accueillante, y compris par des bacs pro, des bacs techno, c'est une chance pour les Français ?
C'est une chance, c'est sûr. Mais je ne dis pas le contraire. Je trouve ça remarquable, ce que vient de décrire comme parcours cet auditeur. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y en a énormément qui n'y arrivent pas. Donc la question est très compliquée. Je vous donne un exemple. Depuis maintenant près de 10 ans qu'existe le nouveau système d'accès aux études de santé, aucun bachelier non scientifique dans mon université n'a réussi le concours de médecine. Zéro. Donc est-ce que c'est raisonnable de laisser tous les ans 200 étudiants venir dans cette filière et entrer en échec ?
Abdoulaye Diarra, vice-président du syndicat d'étudiants UNEF.
Bah non, on a un peu une lecture différente. Finalement, ce que nous dit un peu le président de l'université et le gouvernement, c'est que jusqu'à présent, ça ne marche pas. Donc le plus simple, c'est d'enlever les étudiants et de prendre simplement ceux qui sont déjà amenés à réussir. Nous, on pense qu'au contraire, il faut peut-être faire évoluer nos méthodes pédagogiques et regarder pourquoi aujourd'hui, des jeunes rencontrent des difficultés pour réussir. Plutôt que tout simplement avoir un peu la solution de facilité qui est de dire, on va prendre ceux qui réussissent déjà et enlever les autres. Et comme ça, on pourra augmenter artificiellement nos taux de réussite.
Mais est-ce qu'il n'y a pas précisément aussi une injonction sur le plan professionnel aujourd'hui, là je m'adresse au président de l'université, à avoir, il faut bac plus 3, bac plus 5 pour s'insérer professionnellement, donc ça pose aussi la question peut-être de la fonction sociale de l'université, ça permet, ça arrange beaucoup de gens parce que ça permet de court-circuiter aussi le chômage des jeunes.
Alors on a, je pense qu'il y a de la place à l'université pour tout le monde, simplement pas forcément dans n'importe quelle filière, pour n'importe quel profil, c'est pas la même chose de dire qu'on ne peut pas aller à l'université et de dire qu'on ne peut pas aller à l'université en médecine, c'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, aujourd'hui, on est dans un système qu'on peut regretter en France, où il n'existe pas beaucoup de chemins de traverse pour reprendre des études, pour changer de filière, pour reconstruire sa carrière professionnelle en faisant des études tardives, comme ça existe en Allemagne, par exemple. Et ça, c'est très dommage. On est très, très attaché au diplôme.
Abdoulaye Diarra, pour l'UNEF, parmi les revendications entendues chez les étudiants, il n'y a pas que la réforme des universités. On a entendu aussi une contestation de la loi travail, la baisse des APL, la suppression des contrats aidés, finalement c'est aussi une contestation de la politique globale du gouvernement qui se fait entendre dans les universités en ce moment.
Bah, au-delà de la question de ce gouvernement en tant que tel, c'est surtout aujourd'hui des jeunes qui se sentent profondément stigmatisés. À chaque fois, finalement, c'est nous qui devons payer un peu les pots cassés. Finalement, il y a des problèmes budgétaires, donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'argent dans le portefeuille des étudiants. Il n'y a pas assez de place à l'entrée de l'université, ou du moins pas assez de pédagogie pour permettre à tout le monde de réussir. Du coup, on va enlever des étudiants de certaines filières universitaires pour finalement privilégier les bacheliers généraux, parce que ce serait les plus à même de pouvoir réussir. Et c'est ça, malheureusement, sur tout le parcours d'un jeune. Donc effectivement, cette contestation, elle prend de l'ampleur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a envie de dire, mais en fait, tous les problèmes de la société, c'est pas toujours notre faute. Aujourd'hui, effectivement, on doit pouvoir être mis dans de bonnes conditions pour pouvoir réussir, et on en a un peu marre d'être à chaque fois stigmatisé. Et justement, aujourd'hui, on le voit, et c'est pour ça, sur cette réforme, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais effectivement, cette situation, elle va stigmatiser énormément de jeunes, et aujourd'hui, on le voit. Bah, pour le coup, on n'est pas d'accord et on se fait entendre.
C'est bien une contestation globale sur la place des jeunes dans la société qui se fait entendre en ce moment. Le Parcoursup n'est finalement qu'un point de cristallisation. De ce point de vue politique, on a entendu, on a vu les insoumis mélenchonistes particulièrement sensibles à vos revendications et à l'opposé quelques voix identitaires et extrême droite. Est-ce que les coordinations étudiantes sont infiltrées en ce moment par les partis politiques ?
Alors, c'est un peu une question récurrente, mais les jeunes, ils savent également s'organiser en dehors des partis politiques, et notamment, c'est pour ça que, par exemple, typiquement, nous sommes un syndicat étudiant, on essaye tout simplement de faire entendre les étudiants de toutes les manières possibles. Il y a des partis politiques qui s'expriment au nom des jeunes, il y a des organisations syndicales, et aujourd'hui, on le voit, au-delà de la question de est-ce que les jeunes sont plus ou moins drivés par la France insoumise, par d'autres mouvements politiques.
Mais sur ce point précis, vous en pensez quoi ? C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Bah, nous, on laisse la place à tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où les jeunes veulent se faire entendre, ils ont tous les moyens possibles. Donc effectivement, il y a des jeunes de différents courants politiques, et pour le coup, pas seulement de la France insoumise, mais même typiquement, je discutais hier à Paris 1, mais des étudiants qui se revendiquent macronistes, qui nous disent qu'effectivement, sur la question l'accès à l'enseignement supérieur, ils ne sont pas d'accord avec cette réforme. Donc effectivement, c'est une contestation qui est quand même large, qui prend un peu de temps, mais par contre, qui se fait de plus en plus entendre.
Frédéric Dardel, président de l'Université Paris-Descartes, la politisation des étudiants, finalement, c'est un signe de bonne santé pour une jeunesse ?
Tout ce qui apporte l'université, qu'il s'agisse des étudiants ou des enseignants-chercheurs et des personnels, c'est un lieu de débat, c'est un lieu ouvert. C'est, donc c'est normal que les gens discutent. On essaye de susciter la discussion, alors pas forcément avec que je dirais le terrain politique nécessairement comme étant le seul, mais c'est vrai que c'est important.
Un mot sur le cas de Montpellier. La fac de droit était occupée jusqu'à ce que des forces extérieures cagoulées et probablement commanditées, ça la justice le dira, sont venues évacuer les lieux par la force, à coups de taser notamment, selon des témoins. La violence dans les facs pour un président d'université, c'est ce que vous redoutez le plus en ce moment ?
La violence, c'est toujours quelque chose qui fait peur et qui en même temps est le signe du fait qu'on n'arrive pas à discuter et à nouer le dialogue. Donc c'est un constat d'échec pour tous, enfin en tout cas pour ceux qui la déclenchent. Donc on ne peut évidemment que condamner ce genre de choses et le déplorer. Et je m'associe à toutes les protestations qui ont été faites sur ce sujet.
On a évoqué tout à l'heure le manque des moyens. Ces universités en précarité et parfois en grande précarité en France, par manque de moyens, quelles sont les missions ? Je m'adresse au président l'université que vous êtes, quelles sont les missions que vous ne pouvez plus assurer ?
Alors, je dirais que aujourd'hui, ce qui est dans une université parisienne comme la mienne, ce qui est le plus tendu, c'est l'immobilier. C'est-à-dire, c'est l'état des bâtiments et des locaux. Les bâtiments appartiennent à l'État, qui est un très mauvais gestionnaire de son patrimoine en général, pas seulement dans l'université. Investir sur le long terme pour maintenir le bâti, c'est quelque chose qui est compliqué. Et effectivement, après quelques dizaines d'années de non-intervention de l'État sur ces sujets-là, on a, dans des universités anciennes, alors on a des bâtiments prestigieux, mais qui parfois... Parfois, il pleut à l'intérieur.
Il faut le rappeler. Quels sont les... Oui, enfin, on rigole, mais en même temps, ça fait plutôt pleurer. Quelles sont les ressources des universités ?
Alors, l'université comme la mienne a un budget d'environ 330 millions et 230 millions de subventions, de charges de services publics. Il y a à peu près 6 millions de droits d'inscription. Et le reste, ce sont des recettes que nous trouvons ailleurs, alors auprès de financeurs publics, etc. Donc, avec des contrats de recherche, avec l'Union européenne, etc.
Abdoulaye Diarra, je vais vous poser la question. Je vous poserai également la même question tout à l'heure au président d'université. L'autonomie donnée aux facs, est-ce que ça a favorisé la précarité ?
Bah effectivement, on se retrouve avec des établissements universitaires qui sont mis en concurrence. C'est-à-dire que notamment sur la question des appels à projets, c'est finalement une université contre l'autre qui est amenée à se concurrencer pour obtenir des financements.
Et notamment par la recherche.
Notamment par la recherche. Donc plutôt que donner les moyens à chaque établissement universitaire de pouvoir fonctionner de manière pérenne et de pouvoir accueillir l'ensemble des étudiants, les établissements sont invités tout simplement à se mettre en concurrence, à essayer d'avoir le projet de recherche le plus concurrentiel possible, ou amener à fusionner, et surtout, nous, une situation, pour revenir juste à une petite question que vous aviez posée tout à l'heure sur la question de l'usage de la force sur les établissements universitaires, ce qu'on voit, c'est qu'on nous impose, en tout cas, une vision un peu majoritaire qui est de dire que finalement, nous n'avons pas le choix sur la question de la réforme. Alors effectivement, sur certains établissements universitaires, comme à Montpellier, ça passe par la force. Sur d'autres établissements, c'est des fermetures administratives. Ou encore, typiquement, sur Toulouse, c'est alors qu'il y a une contestation qui est majoritaire et qui est fait en lien avec l'ensemble de la communauté éducative, c'est par exemple un bâtiment qui est évacué sur ordre de l'administration après que le ministère ait décidé tout simplement de faire démissionner l'équipe de direction et les conseils centraux. Donc effectivement, des étudiants et des élus étudiants qui, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les réformes, sont tout simplement invités à se taire ou en tout cas à partir. Donc effectivement, une situation qui pour nous en tout cas est particulièrement complexe et qui évidemment amène de la contestation.
Eh bien merci d'être venu le dire ici, merci à tous les deux, Frédéric Dardel, président de l'université Paris Descartes, et merci à vous Abdoulaye Diarra, vice-président du syndicat étudiant UNEF. Merci et bonne journée.